le masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 17 mai pour un masque et la plume pour temps de déconfinement, toujours enregistré au téléphone et consacré aujourd'hui aux films qu'on peut voir en DVD, Blu-ray, VOD avec chacun chez soi et tous ensemble, Camille Nevers de Libération. Bonjour Camille.
Bonjour.
Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série sur France Inter. Salut mon petit Xavier.
Bonjour à tout le monde.
Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. Salut Jean-Marc.
Bonjour.
Et bonjour Michel. Michel Simon de Positif, dont le
bonjour
du mois de mai consacre sa une et son dossier aux actrices françaises d'aujourd'hui. Au programme, trois films qui, vous le savez, faute de salles, sont sortis directement en VOD. C'est Pinocchio de Matteo Garrone, L'Extraordinaire, Mr. Rogers de Marielle Heller et Georgetown de Christoph Waltz. Et puis, trois classiques restaurés, remasterisés, ripollinés, Jules et Jim de Truffaut, cet obscur objet du désir de Buñuel. Et Christine de Carpenter, sans oublier vos précieux conseils de fin d'émission ici, Radio France Inter, les cinéphiles parlent aux cinéphiles. Et dans le courrier toujours abondant de la semaine, à propos de Mort à Venise, dont on parlait la fois dernière, Philippe Portail est choqué d'avoir entendu un critique du masque, je ne sais plus qui c'était, comparer ce film à la série des gendarmes. Certes, l'esthétisme est un peu excessif, mais c'est le film le plus personnel de Visconti. Philippe de La Rochelle salue des acteurs formidables et juge que le maquillage très réussi augmente la dramaturgie. Roger Gresser du Havre nous exprime son désaccord total. Mort à Venise est un très beau film plein de subtilité avec la magnifique musique de Mahler, de belles lumières, des cadrages soignés, et dans le contexte actuel, comment mieux parler de l'approche de la mort, de la beauté, de la jeunesse. La nouvelle de Thomas Mann est magnifiée par le film de Visconti. Gilles trouve au contraire que le roman de Thomas Mann était déjà lui-même un peu grandiloquent, lent et lourdingue. Pour Damien Fier, Mort à Venise est un chef-d'œuvre. Je l'ai aimé dans mon adolescence, mais contrairement à vous, moi, je n'ai pas changé. Pour Arthur Monnier, Mort à Venise est un film enfiévré sur un désir qui n'est pas romantique, mais obsessionnel, presque morbide. Je veux croire que c'est le confinement qui vous a rendu si peu sensible à ce Visconti sur l'attente et le désir inassouvi. Thierry Fontaine se souvient qu'il a vu Mort à Venise à sa sortie en 71. Le film m'a fait découvrir Mahler comme Bertolucci m'avait fait découvrir Verdi. Je n'écoutais que du rock, j'avais l'âge de Tadzio, maintenant j'ai celui de Bogart. Et puis dans la série, nos auditeurs sont vraiment formidables. J'ai reçu des dizaines, voire une centaine de courriels pour donner à l'auditrice qui voulait revoir La Maison des Bory le moyen d'accéder sur Internet et même avec les bonnes vieilles cassettes VHS au film de Daniel Valcroze qui fait dire par exemple à Laurence Lacan « Oui, redonnez-moi Marie Dubois, le soleil et la chaleur de mon adolescence » ou à Anouk qui habite la Californie « Que cette maison n'a pas vieilli » à Anne-Marie Junière de Paris « Que cette double histoire d'amour a traversé les années » et puis dans le courrier il y avait aussi un très joli message de Nicole Doniol Valcroze, sa femme, m'annonçant que La Maison des Bory allait sans doute sortir en DVD le 10 juin. Nicole Doniol Valcroze qui avait consacré un documentaire à feu son mari. Voilà, et on commence, si vous le voulez bien les amis, avec le Pinocchio de Matteo Garrone, qui devait, vous le savez, sortir sur les écrans le 18 mars, et qui est finalement diffusé depuis le 4 mai sur la plateforme Amazon Prime, cette énième adaptation du classique de Carlo Collodi, est donc signée par le réalisateur de Gomorra avec Roberto Benigni dans le rôle du pauvre menuisier italien Geppetto, dont la marionnette en bois voudrait tant être un petit garçon et qu'il considère comme son fils. D'ailleurs, je rappelle que Benigni avait lui aussi porté à l'écran cette histoire, c'était en 2002. Mais là, il jouait Pinocchio, dont, comme Xavier Le Herpeur, le nez s'allonge à chaque mensonge. Le film est très fidèle au conte et à ses aventures, autrement dit aux embûches de la bûche, si j'ose dire, mais aussi à la misère de cette fin du 19e siècle. Il ne manque ni Manchefeu, ni Le Chat et le Renard, qui sont quand même des gredins, ni la fée bleue, qui est jouée ici par Marine Wacht, ni le criquet, ni même le singe, ni la dame escargot, ni l'énorme poisson, et c'est le petit Federico Yelapi, qui a 8 ou 9 ans, qui joue Pinocchio. Camille, je sais, pour t'avoir lu dans Libération, que tu as vu ce Pinocchio et que ton avis est partagé.
Oui, c'est un film assez lisse. Le film de Garonne vient après d'autres adaptations qu'on a pu voir gosse, comme celui de Disney ou celui de Comencini, qui est peut-être l'exemple de l'adaptation réussie de Pinocchio. Ce film-là, il est très bien fait. Il n'y a rien à redire. C'est de la belle ouvrage. C'est des effets spéciaux magnifiques, avec Benigni qui reprend le rôle de Geppetto après avoir lui-même joué Pinocchio, avec cette espèce de clin d'œil comme ça. Et il est très bien. Je trouve que le début, sur les morts, la fin, sur la façon dont il cherche de quoi manger, avec du travail, enfin, par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement, c'est plutôt bien vu. En revanche, je trouve que le film est scolaire et pas buissonnier. Et si le conte de Pinocchio était l'idée d'un enfant qui rêve de devenir un enfant comme les autres, je vous conseillerais plutôt de revoir A.I. de Spielberg, qui est quand même le grand film du rêve d'un enfant qui veut être un enfant. L'enfant robot, là. Voilà.
Je signale que, d'après ce que j'ai lu, que Guillermo del Toro prépare lui aussi une version animée pour Netflix. Donc, on ne sait plus où mettre tous ces Pinocchio. Michel ?
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que le film est supérieur à la catastrophique adaptation qu'avait fait Roberto Benigni. C'est vrai que c'est meilleur, mais c'est pas non plus grand-chose. C'est-à-dire que on peut se poser des questions. D'ailleurs, Jérôme, tu as bien dit, l'auteur de Gomorra, c'est à peu près ce qu'on retient de Matteo Garrone. Est-ce qu'on s'est trompé sur Matteo Garrone ? Car Garrone n'a jamais confirmé, même si Dogma n'était pas non plus un mauvais film. Mais en dehors de ça, c'est vraiment...
Intéressant quand même, Dogma.
Oui, absolument intéressant, mais sans plus. On pensait que c'était un renouveau du cinéma italien. Alors les 10 premières minutes, on est intéressé parce que il y a une belle scène où on voit Geppetto qui va chez son voisin, qui le convainc de réparer la table, de réparer la chaise, de réparer la porte. Et puis on lui offre un bol de soupe, un quignon de pain. Bon, c'est le côté pathétique de Geppetto est très bien rendu. Et ensuite, le film devient une imagerie extrêmement conventionnelle, d'un naturalisme assez là, et le film n'a vraiment pas grand intérêt.
Xavier ?
Ah, celui qui a le nez qui s'allonge tout le temps à force de mensonges. Donc, moi, je partais tellement, mais tellement frileux à l'idée de découvrir un Pinocchio de Matteo Garrone, parce qu'effectivement, je suis un peu comme Michel, je pense que c'est l'homme d'un film, et je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment l'auteur du film, Gomorra, que là, bizarrement, je rejoindrais un peu Camille, c'est-à-dire que je m'attendais tellement au pire, que finalement, cette adaptation extrêmement fidèle du conte de Collodi, qui n'arrive pas à la cheville ni du Pinocchio de Disney, ni celui de Comencini, bien évidemment, qui n'a pas beaucoup d'idées autres que d'illustrer de façon extrêmement luxueuse et assez érudite. Je pense que au moins Garonne connaît un petit peu bien la peinture naturaliste de l'Italie de cette époque-là. Ah oui. Donc il y a des décors absolument magnifiques, il y a des gros plans sur la nature qui s'éveille au matin. On est d'accord, Camille, voilà, il y a quelque chose d'assez beau, il y a quelque chose d'assez réussi sur le plan esthétique. Le problème, et qu'il ne s'affranchit à aucun moment du côté extrêmement moralisateur du conte de Collodi. Camille l'a dit, c'est-à-dire qu'en gros, vilain petit garçon, si tu avais été obéissant, si tu avais été sage, si tu avais bien écouté ce que ton papa te disait, tu n'aurais pas connu les problèmes que tu connais. Et là, ça saute aux yeux et ça a un peu vieilli, quoi, ce côté comme ça. Non, il faut apprendre aussi aux enfants à désobéir, et le conte de Collodi dit exactement le contraire. Et Garonne, vraiment s'enferme dans ce côté, oui, les enfants doivent obéir, et on aimerait bien qu'il y ait quelque chose d'un petit peu réinventé. Alors Guillermo del Toro, vous l'avez dit, va réinventer le Pinocchio, puisqu'il va le plonger dans l'Italie fasciste des années 30. Ouais. Donc je suis sûr qu'il va donner une autre dimension à sa manière, bien évidemment. Mais là, dans l'état, on a un magnifique livre d'images. C'est un film illustratif, c'est un film inutile, on est tous bien d'accord. Mais honnêtement, c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais.
Qu'en pense notre Geppetto du masque, qui est Jean-Marc Lalanne?
énormément de mal. Je trouve que c'est vraiment une purge absolue. Alors Camille m'a un peu coupé l'herbe sur le sous le pied en parlant de AI de Spielberg, parce que je veux dire que pour moi c'était à jamais l'adaptation définitive du mythe de Pinocchio, et un truc que Spielberg réussissait remarquablement bien, c'était dire la douleur de se sentir différent lorsqu'on est enfant et vouloir changer de corps, changer d'identité. Et ce complexe là, ce complexe de Pinocchio qui est la détestation de soi lorsqu'on est enfant, Garonne le traite mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment ce qui devrait être le cœur du récit est totalement escamoté au profit d'un pur film de directeur artistique, et d'un directeur artistique qui, à mon sens, a vraiment très très mauvais goût. Moi, je trouve le film hideux, visuellement. Par moments, je me disais que c'était au bord de devenir intéressant tellement c'était laid. Tous les masques, même les masques d'animaux, ressemblent à des visages de vieillards ultra ridés. Même le masque de Pinocchio ressemble à un visage ridé. Il y a quelque chose de volontairement hideux, mais qui, à mon avis, n'arrive pas à être expressif et véritablement effrayant, qui est subi
parce
par
que
le film.
Vieux, c'est hideux, voyons.
Il y a côté vraiment une mythologie du vieillard effrayant et méchant dans le film, qui traverse, je trouve, toute la ligne de la direction artistique. Évidemment qu'on peut filmer la vieillesse de manière totalement différente, de façon très émouvante, mais là c'est pas le cas. C'est vraiment tout ce qui peut faire peur dans un corps qui arrive au bord de la décomposition. Et en même temps, je trouve pas que le film arrive à projeter ça dans un truc expressif. Et en plus, je trouve le récit totalement atone, invertébré. Il y a aucun temps de tempo. On a l'impression que les épisodes s'empilent sans que jamais ça ne produise une dramaturgie un peu haletante. Rien n'accède à du relief dramatique. Et c'est vraiment suffocant d'ennui.
Pour un film qui dure, je le rappelle, 2h06. C'est le Pinocchio de Matteo Garrone qui est disponible sur Amazon Prime. Il devait lui aussi sortir en salle. Il est disponible désormais en VOD et il sera en DVD le 17 juin. C'est l'extraordinaire Mr. Rogers de Marielle Heller, la réalisatrice des Faussaires de Manhattan, avec Tom Hanks dans le rôle de Fred Rogers, présentateur télé qui a animé de 1968 à 2001 une émission éducative pour la jeunesse et dont un journaliste chargé de lui tirer le portrait, qui est joué par Matthew Rhys, va découvrir qu'il est bien différent de sa légende cathodique et même plus complexe qu'il n'y paraît. Après cette rencontre, le journaliste va renouer avec son propre père, qui est joué par Chris Cooper. Faut pas vraiment être allergique aux bons sentiments, n'est-ce pas, Xavier?
Alors là, moi, vraiment, c'est pour moi la purge de la semaine. Alors, j'admets totalement que Jean-Marc ait détesté Pinocchio, mais alors, dans la série purge, interminable, aucune narration, quand tu dis qu'on découvre que l'homme de l'ombre n'est pas tout à fait identique à l'homme de lumière, c'est quand même un monsieur très gentil qui sème derrière lui tous les bons sentiments possibles et imaginables. On a l'impression que c'est une machine à guimauve, ce type, hein. Même dans le métro, il y a une scène dans le métro où tout le monde le reconnaît, et on a l'impression d'un nouveau Christ, comme ça, les gens se signent devant lui, veulent absolument le toucher. Enfin bon, bref.
Mais tu n'aimes pas la bienveillance, Xavier?
Non, mais non, alors là encore moins. Là, je pense que je suis sevré pour une vingtaine d'années, de toute façon, je pense que j'allais frapper des enfants pour me défouler. Non, je plaisante bien évidemment. Mais en plus, nous, ces émissions pour enfants, oui, présentées j'espère. Par une espèce de type figé quand même, dans une espèce de costume et de maquillage d'un autre temps, et qui est en train de sourire béatement à la caméra. Heureusement, on y a échappé, on n'a jamais eu droit à ça, ni à un rue Sésame, ni à toutes les déclinaisons typiquement américaines. Et après, c'est une espèce de psychanalyse interminable, prévisible dès la première seconde, de la réconciliation entre le père et le fils qui ne se parlent plus depuis des années grâce à la bienveillance encore christique de ce personnage. Mais j'ai trouvé ça mais abominablissime. C'est une espèce de premier degré comme ça de oui, il faut aimer son père quel qu'il soit, il faut apprendre à se réconcilier avant sa mort. Enfin mais au secours quoi, ça n'est jamais remis en question, il n'y a pas une opacité, il n'y a pas une nuance, il n'y a rien. Vous l'avez compris, le film m'a passablement énervé, donc je vais passer la parole à quelqu'un d'autre.
Mais de toutes les manières, je pense que ne serait-ce que par effet biologique, Jean-Marc n'a pas détesté.
Exactement. J'ai plutôt été agréablement surpris par le film.
Ah bah oui.
Mais c'est incroyable que tu l'aies deviné, Jérôme, parce que moi j'étais surpris de ne pas détester. Moi j'ai été justement séduit parce que je pensais que le sujet serait un peu ce que tu annonçais, Jérôme, à savoir qu'on découvre un secret, quelque chose de possiblement honteux, crapoteux, négatif sur ce personnage notamment.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Oui, en tout cas moi c'est ce que j'avais imaginé. Quoi que tu dis, j'ai cru que tu disais ça, qu'on découvrait qu'il n'était pas tout à fait celui qui paraissait. Ben justement, moi j'étais séduit que le film ne s'engage pas vers cette dramaturgie-là, du dévoilement du secret, qu'il ne soit rien d'autre que ce à quoi il a l'air d'être. Et je trouve que, d'une part, Tom Hanks, c'est vraiment génial. Je le trouve délicieux parce que lui apporte de l'opacité, du mystère, quelque chose comme ça dans Gros Chat, dont on a toujours l'impression qu'il cache quelque chose. Et en même temps, le récit ne va absolument pas révéler le secret de ce personnage. Et alors, c'est vrai que c'est très cheesy, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de guimauve. Mais cette espèce de bienveillance généralisée pour aller dans le sens de l'apaisement dans le trauma, ça m'a plutôt touché.
Camille.
Bah, je vais vous décevoir, je vais être encore d'accord avec Jean-Marc. En fait, le film, il me déçoit.
Je vais vous laisser. Hein.
Moi, j'aime beaucoup le premier degré, j'aime beaucoup les bons sentiments. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à filmer. Et les plus grands cinéastes, enfin ceux que je préfère, comme Léo Macaré, ont filmé admirablement les bons sentiments au premier degré. Et voilà, je crois que j'aime la guimauve et le sucre. Mais simplement, je suis d'accord avec Jean-Marc que Tom Hanks est génial. C'est un film de Tom Hanks de plus, qui joue toujours cette espèce de moine zen, comme ça, à la fois complètement inexpressif et qui fait passer toute l'humanité à travers je sais pas quelles ondes de comédiens. Enfin, il est vraiment, moi, c'est un acteur que j'adore, que j'avais pas revu depuis Pentagon Papers. Donc, je suis ravie de le revoir dans ce rôle d'un personnage dont il faut répéter qu'il a existé, hein. C'est un personnage réel, très très célèbre pendant 30 ans aux États-Unis, qui a apparemment marqué toute l'enfance de plein d'Américains. Mais moi, ce que j'aime dans ce film, Maria Lehler, ça fait 3 films, c'est toujours un peu décevant. Elle a un sens du casting incroyable dans Diary of a Teenage Girl, les parents avec Kristen Wiig, ou dans Les Faussaires de Manhattan, McCarthy. Enfin, j'aime beaucoup son choix des acteurs. Elle a un sens du casting que j'apprécie beaucoup. En revanche, il y a toujours quelque chose d'un peu fade au bout du compte. Là, je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que le personnage de Matthew Rice, qui est pourtant un acteur que j'adore pour celui qui jouait dans The Americans, est-ce que le fait de se perdre un peu dans la réconciliation, ce côté résilience, qui est un terme que moi je déteste, avec le père, qui est pourtant joué par Chris Cooper, qui est aussi un acteur que j'adore, qui joue chez John Sayles et tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mal joué?
Mais là, c'est un sommet de résilience dans le film.
Oui, mais je peut-être que c'est ça qui me gêne. Peut-être que j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus axé sur le rapport Tom Hanks et le journaliste, qui est vraiment plus de scènes entre eux, et moins avec la femme, avec le père, la belle-mère, l'enfant, qui a un faux bébé et tout. Enfin, peut-être que le côté miniature un peu oui-oui du film aurait pu être... Voilà, je voulais dire par rapport à Xavier, ce qu'il raconte sur le côté très lisse du personnage, le dernier plan est très très beau, quand il sort du décor, qu'il referme la porte, il va voir si le rush, si c'est bon, si c'est dans la boîte, il va se mettre au piano, et il fait quelque chose de très joli, une petite musiquette, et d'un coup, pouf, il y a une dissonance, il y a quelque chose, il plaque un accord sombre, disharmonieux, et d'un coup, on voit que le type, qui est super lisse, très, très, comme ça, gnangnan, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus, zen, comme ça, des types qui se retient tout le temps de pas être humainement cruel et... Je sais pas, il y a quelque chose entre Man on the Moon chez les bisounours et le complexe du castor qui sont des films que j'aime beaucoup. Et donc voilà, avec la marionnette, j'adore tout ça.
Bon, Michel, qu'est-ce que tu en penses de cet extraordinaire Mr. Rogers?
D'abord, je suis un peu étonné qu'on parle aussi longuement de ce film, extraordinaire Monsieur Rogers. Alors moi, je suis évidemment aussi pour les bons sentiments quand c'est Léo Macaré et John Ford, mais on en est extrêmement loin, c'est-à-dire qu'on a affaire à un film d'abord qui va dans tous les sens. Il y a un côté comédie musicale, ça vient comme des cheveux sur la soupe. Il y a de temps en temps un intermède musical, des chansons qui sont d'ailleurs sans grand intérêt et qui n'ajoutent rien au film.
Qui était dans l'émission originale.
Ce qui est intéressant, c'est l'épisode central, effectivement, entre ce journaliste et puis Tom Hanks, qui est, il faut le dire, absolument magnifique, mais c'est un très grand acteur, nous le savons depuis très longtemps. Par contre, je trouve le film vraiment du point de vue de la mise en scène, la reconstitution des émissions de télé n'a aucun intérêt. Bon, on est très heureux que les Américains aient regardé ça pendant 35 ans et que c'est un des plus grands succès, qu'il était l'idole des enfants. Mais à part cet intérêt documentaire, le film est vraiment médiocre. Donc je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on a des films magnifiques dont on va parler.
Mais c'est vrai que James L. Brooks...
Absolument, l'extraordinaire Mr. Rogers, c'est Marielle Heller et c'est en VOD. Et enfin, dernier film inédit qui bascule directement en VOD, c'est Georgetown, le premier long métrage de l'acteur autrichien Christoph Waltz, indissociable, les auditeurs le savent, de son rôle d'officier nazi dans Inglourious Basterds de Tarantino. Il n'est pas seulement d'ailleurs ici derrière la caméra, il est aussi devant puisqu'il joue Ulrich Mott, un guide touristique allemand à Washington, qui est marié à une journaliste de 30 ans, son aînée, qui est jouée par Vanessa Redgrave, une union qui fait jaser le tout Georgetown, qui est ce quartier très chic de Washington, et plus encore lorsque la femme d'Ulrich est retrouvée morte pour sa fille, qui est jouée par Annette Bening. C'est forcément lui le coupable, et cette histoire s'inspire une fois de plus d'une affaire criminelle réelle en 2011 impliquant un dandy de 26 ans qui avait séduit et épousé une riche veuve de 71 ans et avait menti sur son passé. Et ça, pour toi Michel, c'est plus intéressant que le Marielle Heller?
Ah bah oui, de loin, beaucoup plus intéressant. Je dis pas que c'est un très bon film, mais c'est un film d'abord, les comédiens sont absolument formidables. Je pense que Christopher Waltz s'est rendu compte qu'il était devenu récemment caricatural, c'est-à-dire qu'il rejouait toujours dans le même registre extrêmement grossi du méchant, etc.
Très rarement dans la bienveillance, hein.
Voilà, et là je trouve qu'il a un rôle extrêmement intéressant. J'ai adoré Vanessa Redgrave qui a 83 ans, qui joue une femme de 91 ans et qui est vraiment occupe l'écran avec un brio assez incroyable. Et puis Annette Bening, qui est également une très bonne actrice. Donc déjà le plaisir de voir ces acteurs. Ensuite l'intérêt du scénario, évidemment, quand on y pense, on se dit que si Mankiewicz ou Preminger avaient eu ce scénario, ça aurait été un film formidable. On y pense dans les scènes de salon, les discussions entre les gens, l'intelligence du dialogue. Le scénario m'a paru très intéressant avec ce frégoli un peu, c'est vraiment un peu comme une comédie anglaise des années 50. Il y a un côté assez, ce personnage qui fréquente George Soros, qui fréquente également les hommes politiques français, c'est très curieux, un Washington totalement recréé, mais la mise en scène ne suit pas. Mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant de voir un comédien qui a fait des téléfilms en Autriche, parce que il a toute une carrière en Autriche qu'on ne connaît pas, mais il a fait des films et des téléfilms, se lance dans un premier long métrage, et je trouve que le film, en tout cas, intéressant. C'est pas un grand film, mais c'est un film intéressant par son sujet.
Camille?
Je vais pas aller contre ce que dit Michel Simon pour dire c'est vachement mieux ou vachement moins bien que le précédent film dont il s'agissait. Je suis toujours très séduite et curieuse de voir les films de comédiens, réalisés par des comédiens. Alors c'est vrai, je suis ravie, mais alors là, c'est la fan qui parle de voir Vanessa Redgrave de nouveau à l'écran. Elle est géniale, quoi. Elle est magistrale, et c'est vrai que Waltz la filme magnifiquement. Alors ça, c'est pas un metteur en scène, ça. C'est vrai que le film, là, le début et ces espèces de plans, le fou plan séquence, drone, je sais pas quoi, enfin des choses vraiment très faciles, c'est pas réussi, mais dès qu'il s'intéresse aux acteurs, donc là pour le coup par rapport à ce que disait Jean-Marc, c'est un beau film sur les vieux, ou sur les vieilles en l'occurrence, puisque c'est Vanessa Redgrave et Annette Bening qui fait sa fille. Il y a un pur plaisir comme ça de revoir des comédiens qu'on voyait moins, et la façon dont lui, forcément, en tant que comédien, qui fait un film de comédien sur un imposteur antipathique, un escroc total, c'est jouissif, forcément, on voit ça dans le second degré du type qui se révèle être homosexuel. Bon, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un film sur Marguerite Duras et Yann Andrea, enfin, il y avait quelque chose, alors, du coup, qu'on n'avait jamais vu au cinéma, ou alors oui. un cirque tordu.
Vanessa Redgrave n'a pas du tout le physique de Marguerite Duras. Hein.
Non, mais c'est parce que c'est rare, ce genre de couple au cinéma, comme ça, d'une dame plus âgée avec un type plus jeune qui se révèle avoir une sexualité homosexuelle. Donc, enfin, voilà, mais c'est un film de comédien, donc en tant que tel, on reste captif jusqu'au bout. Après, on oubliera assez vite, je pense.
Jean-Marc et Xavier, qu'en pensez-vous de ce film, ce premier film de Christoph Waltz?
Bon, moi, pas grand-chose de plus que tout ce qu'ont déjà dit Michel et Camille. Je trouve effectivement que c'est pas mal écrit. Je comprends pas pourquoi le film se déguise en whodunit, c'est-à-dire qu'il ne révèle pas qui est l'auteur du meurtre au début, comme s'il y avait un bénéfice à en découvrir Oui, il faut attendre le générique fin. Hein. L'identité de l'assassin, alors que vraiment, on n'apprendra rien de plus que ce qu'on pouvait anticiper au bout de 10 minutes. Donc, cette construction un peu alambiquée, comme si on essayait de nous manipuler, alors que vraiment, on a tout compris dans lui, est très très vaine et assez gratuite. Mais effectivement, sur la relation entre le personnage de Vanessa Redgrave, qui est vraiment magnifique, et Christopher Waltz, qui est un acteur souvent quand même assez pénible, comme l'a dit Michel, et qui là retrouve une sorte de nouvelle fraîcheur en faisant beaucoup moins que d'habitude. C'est assez bien fait, cette relation-là, où il y a un vrai trouble. Je pense que personne n'aurait envie d'aller voir ça au cinéma, mais si le film vient à nous, c'est un peu de la chair à plateforme de streaming, une sorte de contenu parmi d'autres, et ça peut être une expérience plutôt pas désagréable.
Xavier ?
On va gagner du temps, je suis entièrement d'accord avec mes petits camarades. Je trouve le scénario vraiment intéressant parce qu'il dresse le personnage d'un mythomane et de façon assez vertigineuse. Il y a 4 chapitres dans le film qui sont le stagiaire, le majordome, puisque c'est comme ça qu'elle l'appelle, le diplomate et l'infiltré, qui raconte vraiment comment ce type a réussi à convaincre, à faire croire autour de lui qu'il était ce qu'il feignait d'être. Et ça, le scénario le montre assez bien sur l'écho, y compris jusqu'à la relation qu'il a avec ses avocats. Après, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc. C'est un épisode de Columbo, et chez Columbo, c'est tout de suite qui a tué. En termes de mise en scène, ça ne dépasse pas ce niveau-là de champ contre champ, d'installation. Je suis d'accord avec Jean-Marc, on regarde ça à la télévision, on serait peut-être pas allé le voir au cinéma, mais effectivement, la platitude de la mise en scène, ou son absence en tout cas d'aspérité et de relief, n'est pas tout à fait à la hauteur du scénario.
Enfin, vous avez remarqué que, et je pense que ça n'est qu'un début, il y a de plus en plus de films inédits qui sortent directement en VOD, faute de salles, et je pense que c'est un phénomène qui va croître une bonne partie de l'été. C'est donc Georgetown, le premier long métrage de Christophe Waltz. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume, un masque téléphonique, un masque grand public. Un masque de protection, mais qui ne protège pas contre le virus du cinéma que nous continuons à défendre, à aimer et j'espère aussi à promouvoir. Et maintenant, retour à Truffaut, puisque c'est assez étonnant, les géants américains de plateforme se mettent à draguer les cinéphiles et surfent même. Sur la nouvelle vague française, qui aurait dit il y a quelque temps que, alors qu'Amazon Prime propose par exemple ce mois-ci 6 titres d'Agnès Varda, que Netflix mettrait en ligne 12 films de François Truffaut, dont Les 400 coups, Tirer sur le pianiste, Baiser volé et bien sûr L'immarcescible Jules et Jim. Film de 1962 adapté du roman très intéressant qui est toujours disponible de Henri-Pierre Rocher avec Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre et Marie Dubois. Oui, la Marie Dubois, chère Dominique, de la Maison des Bories, sur l'air du tourbillon de Bastiac alias Rezvani dans le Paris d'avant la Grande Guerre. Le français Jim, c'est donc Henri Serre. Et l'autrichien Jules, c'est Oscar Werner. Deux amis inséparables, aiment la même Catherine, aiment la même Jeanne Moreau, mais c'est Jules qu'elle épouse. Et puis, après l'armistice, le trio va se reformer en Autriche jusqu'à une fin terrible qu'on ne racontera pas. Parce qu'il y a encore, mes amis, il y a encore des auditeurs qui n'ont jamais vu ce film qu'on peut vraiment appeler film culte. Jean-Marc.
C'est un film que j'ai dû voir 7 ou 8 fois dans ma vie. Et ce qui est fascinant...
Oh, moi, plus.
7 ou 8 fois, c'est vrai qu'il y a des films que j'ai vu encore beaucoup plus. Mais je l'ai vu depuis l'adolescence jusqu'à la semaine dernière pour cette émission. Donc à des âges très différents. Et ce qui est fascinant dans le film qui nous accompagne comme ça toute notre vie, c'est que par moments, on s'en éloigne et on y revient. Et il y a eu des moments dans ma vie où je me disais que finalement, c'était pas le Truffaut que je préférais, que les deux anglaises adaptées du même auteur, c'était plutôt plus fort. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais à ce point vulnérable au film, mais il m'a vraiment ravagé, bouleversé. Je l'ai trouvé lyrique, fou, Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de contenu et de furieux dans le film qui m'a totalement bouleversé. Et c'est assez fascinant d'observer finalement la relation qu'on peut avoir avec un film sur toute une vie. C'est quelque chose qui est très mobile, qui n'arrête pas de bouger. Et justement, ce qui m'a séduit là, ce qui m'a frappé, c'est que le film était effectivement très mobile lui-même et n'arrêtait pas de bouger. Il y a quelque chose d'alerte dans la mise en scène de Truffaut qui est toujours en mouvement. Il y a sans arrêt des petits panoramiques. Il y a quelque chose de vif, comme s'il voulait toujours être sur le feu du sentiment, attraper quelque chose qui n'arrête pas comme un faux follet dans tous les sens et qui est l'impermanence du sentiment. L'impermanence aussi qui est produite par le temps qui passe, la façon, cette érosion des êtres et de l'amour avec, puisque le film se déroule sur à peu près 20 ans. Donc il y a quelque chose comme ça, tout le temps sur le qui-vive, dans la façon de traquer ceux qui, dans un triangle amoureux, ne cessent de se déplacer, de circuler, de se transformer, qui m'a émerveillé. Et bon, le film est évidemment porté par un trio d'acteurs absolument magiques. La façon dont il filme Jeanne Moreau, c'est absolument somptueux. Vraiment, il la filme comme une déesse. Et j'adore la relation entre les deux hommes. On sent que Truffaut prend un plaisir fou à les filmer se vouvoyer, par exemple, que ces codes de politesse de la société française d'il y a 100 ans, c'est quelque chose qui l'excite au plus haut point, cette manière dont le sentiment doit toujours être contenu et l'affection qu'il se porte, voire même, on est par moments à la limite du trouble amoureux entre eux, est toujours contenu dans une bienséance, une langue extrêmement châtiée, extrêmement littéraire. Et cette manière de toujours contenir le feu chez Truffaut, c'est vraiment magnifique.
Et le trouble, je trouve, des sentiments est tellement bien montré, filmé, que moi, tu vois, j'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois. Chaque fois, je suis surpris, comme si je m'attendais à quelque chose de différent. C'est-à-dire que rien n'est trop écrit ni trop attendu, et à chaque revision j'ai une nouvelle surprise. Michel,
j'hésite à intervenir après ce déluge de superlatifs parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé il y a 50 ans ou presque 50 ans quand je l'ai vu pour la première fois, et je l'ai revu plusieurs fois et à chaque fois j'étais un peu déçu, et cette fois-ci encore plus. Pour quelle raison? Oui, absolument. Bon, je vais me permettre d'être un peu réservé sur ce film qui, évidemment, n'est pas du tout, est au très haut niveau par rapport à tout ce dont on vient de parler. Ça, c'est évident. Je pense que ce qui reste de Truffaut, c'est essentiellement les films sur les rapports entre hommes et femmes. Mais je préfère, par exemple, L'homme qui aimait les femmes, ou La femme d'à côté, ou La peau douce. Ce qui me gêne dans le film, c'est pas, évidemment, Jeanne Moreau, qui est sublime, et surtout qui la change complètement, parce qu'elle jouait dans un registre grave, un registre sombre, chez Antonioni, chez Marguerite Duras, les adaptations de Duras, dans L'ascenseur pour l'échafaud. Là, elle est coquine, elle est séduisante, elle est drôle, elle est absolument sublime. Je trouve que, du coup, elle dévore pratiquement ses camarades masculins. Je les trouve ni l'un ni l'autre extrêmement convaincants. Et surtout, ce qui m'a gêné dans le film, c'est beaucoup de coquetterie, les surimpressions, les titres qui incrustaient sur l'écran, les fondus enchaînés, les arrêts sur image, il y a toute une panoplie de cinéphiles comme ça qui fait vraiment répertoire de trucs qui me gênent. Alors je crois que Jean-Marc a raison, ce qui frappe dans le film, c'est la vitesse, c'est-à-dire la façon dont Truffaut fait des plans très courts. Il y a pratiquement 80 scènes dans le film, c'est extrêmement haché, je ne sais pas si c'est complètement réussi. Et dernier grief, je pense que quand on a deux personnages qui ont vécu la guerre de 14, qui ont été dans les tranchées, qui ont vu cette boucherie. Et là, c'est le défaut un peu de Truffaut, c'est qu'il ignore l'histoire. Il a toujours été contre les films politiques. Je dis pas qu'il fallait faire un film politique, mais on ne peut pas, dans une histoire d'amour comme celle-là, ne pas tenir compte d'une expérience de boucherie qui a été la guerre de 14. Or, les personnages ne semblent pas du tout avoir vécu cette époque. Je pense que si John Ford ou Kazan...
Ça, c'est pas tout à fait vrai, Michel. Quand il dit j'ai peur de tuer Jim à chaque fois que je tire un coup de fusil, c'est très fort.
Oui, mais c'est un mot. Mais il n'y a pas vraiment le sentiment que ces gens ont été transformés par cette expérience traumatisante. Et ça, c'est un peu, c'est la limite de Truffaut, je pense, comme cinéaste, qui est encore une fois un cinéaste important. Mais je pense pas que Juliette Jim soit le grand film que j'ai cru voir quand je l'ai découvert il y a 50 ans.
Camille.
Alors, je suis un peu embarrassée parce que j'ai moins envie de revoir des films de Truffaut que d'autres cinéastes aujourd'hui, ce qui n'empêche pas que les films soient très beaux. Et je trouve que c'est très important que sur Netflix, sur des supports neufs, des jeunes gens puissent découvrir les 12 films, en l'occurrence, de Truffaut. Là, on parle de Jules et Jim, qui est carrément pas mon préféré. Et alors, c'est un drôle de film parce qu'en effet, il a cette espèce de statut de film culte, donc avec le côté un petit peu désavantageux du film culte, c'est-à-dire que bah, il y a le côté folklore, on connaît les photos de Jeanne Moreau avec sa casquette et sa moustache, enfin des choses comme ça qui ont beaucoup marqué et qui sont un petit peu le folklore
du film.
Et en revanche, le film est toujours plus intéressant que son statut. Mais il masque, à mon avis, des films plus secrets et plus douloureux de Truffaut. Effectivement, La peau douce qui suit, là c'est son troisième film. Et je pense que c'est à partir de La peau douce qu'il devient vraiment un cinéaste intimiste sur la douleur des hommes, sur la fragilité. C'est quand même un grand cinéaste du malheur masculin, parce que c'est plus souvent qu'on voit ça chez les personnages féminins. Mais c'est vrai que c'est un des cinéastes qui a filmé la fragilité des hommes comme personne. Il est plus doué pour la souffrance que pour la joie. Et c'est pour ça que son côté un petit peu virevoltant, désinvolte, volontaire du début, je trouve assez mal vieilli. C'est vrai que je préfère des films plus secrets de lui. Donc bon. La peau douce, Les deux Anglaises et le continent, qui est l'autre adaptation d'Henri Pierre Rocher, et ou La femme d'à côté aussi.
Je t'interromps, Camille, parce que je voudrais qu'on ait encore le temps d'évoquer deux films. Xavier,
oui, parce que j'aime pas Jules et Jim.
C'est vrai que c'est tourbillonnant au début, c'est virevoltant, c'est léger, c'est l'amour à trois, c'est quelque chose d'extrêmement libre, une découverte de la liberté des corps affranchie, assumée, et puis peu à peu, et c'est la mise en scène. Alors, elle s'inspire de tout, hein, de la voix off de Michel Subor qu'elle apporte en contrepoint, de la lumière, de la variation effectivement de ses plans panoramiques très rapides pour des plans plus posés. Elle apporte peu à peu la mélancolie qui va avec le vrai sujet du film, qui est l'absolu de l'amour, l'absolutisme comme ça, de la passion amoureuse, on ne veut rien laisser, on ne veut rien céder, on veut aimer jusqu'au bout, on est déçu obligatoirement par l'autre parce que personne dans un couple n'a la même exigence amoureuse ou romanesque. Et je trouve le film remarquablement construit en termes de mise en scène parce que cette variation-là, effectivement, qui va de la légèreté à la noirceur, fonctionne terriblement. Et puis terminée par cette scène sublime où Marie Dubois, dans un monologue génial, raconte à Jim ce qu'elle a fait depuis bien d'années où elle ne l'a pas vu. Et revoir Marie Dubois comme ça de profil avec sa logorée verbale dans une scène bouleversante et drôle, et ben moi, rien que pour ça, je reverrai Jules et Jim jusqu'à la fin de ma vie.
C'est Jules et Jim de Truffaut, ainsi que 11 autres films disponibles sur Netflix, à l'opposé d'ailleurs de Netflix. Il y a la Cinéthèque, un site de VOD créé par des réalisateurs sur le principe du ciné-club, c'est-à-dire de la cinémathèque idéale. Les films, il y en a actuellement 1300. Ils sont présentés par les réalisateurs du monde entier, chacun choisissant ses 50 films de chevet. Et ce mois-ci, parmi d'autres, hein, bien sûr, les frères Larieux recommandent cet obscur objet du désir, le dernier film en 77 de Luis Buñuel, coécrit avec Jean-Claude Carrière et inspiré de La femme et le pantin de Pierre Louis. C'est avec Fernando Rey dans le rôle du Français qui s'enflamme à Séville pour une belle Andalouse, à laquelle Buñuel, c'est peut-être le plus original du film, donne deux visages, celui de Carole Bouquet et celui d'Angela Molina, film de la frustration amoureuse, qui est d'ailleurs symbolisé à un moment donné par une ceinture de chasteté, qui procède par flashback, puisque dans le train qui le ramène à Paris, Mathieu raconte à ses compagnons de voyage la relation très orageuse qu'il a eue avec Conchita, avec en toile de fond le terrorisme. Je vous demande de pas trop longuement me dire si vous avez vu, revu. Je crois que Xavier ne l'a pas revu, cet obscur objet du désir. Les trois autres, Camille.
C'est marrant parce que dans Jules et Jim, à la fin, ils vont au cinéma, c'est en 29, je crois, et ils voient des actualités avec les premiers autodafés, des nazis qui brûlent les livres et tout. Et en sortant, on voit l'affiche d'un chien andalou et c'était son premier film. Et là, on enchaîne avec cet obscur objet des désirs qui est le dernier Buñuel et qui raconte pas du tout la même chose que Jules et Jim, mais il y a quand même encore cette espèce de façon dont les hommes ont de se damner pour une femme et de se rendre malheureux. Mais après, on est chez Buñuel, donc là, pour le coup, autant chez Truffaut, c'était quand même beaucoup, et là, c'est politique aussi, la libération de la femme sexuelle, etc. Là, c'est sur fond d'attentats et des années de plomb. Donc, il y a tout ce côté arrière-fond de la bourgeoisie qui provoquerait elle-même les extrêmes qui poussent les bombes, l'espèce de fascisme rampant du charme discret de la bourgeoisie, comme Buñuel l'avait dit. Et donc, ça devait être un film qui devait être tourné avec Maria Schneider, qui faisait l'actrice. Et ça s'est mal passé. Brigitte sortait du Dernier Tango à Paris. On sait qu'elle en est restée traumatisée. Et donc, elle est partie parce qu'il y avait trop de scènes de nu. Jean-Claude Carrière raconte qu'elle était trop droguée. Bon, enfin bon, moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle a été traumatisée par quelque chose et elle n'a pas tenu. Donc, elle est partie. Et c'est une idée, je ne sais pas qui l'a eue, de faire du personnage de deux corps. Le corps de Carole Bouquet, le corps d'Angela Molina, doublé par une seule... comédienne trouvée par la monteuse en post-production, qui était Florence Giorgetti, qui vient de nous quitter il y a quelques mois. Florence Giorgetti, qu'on voit dans les films de Vecchiali comme Once More. Et ce film est monstre. C'est un film bicéphale, bivocal, de doublage, de doublure. Ouais. Et en fait, c'est un film monstre, qui est un film comme d'habitude avec Buñuel, cette espèce de tous les hommes sont des cochons qui rêvent de coucher avec des femmes qui se refusent à eux. Comme elle lui dit, ce que tu aimes, c'est ce que je te refuse, ce n'est pas moi. Bon, ben voilà, c'est le dernier film de Buñuel. Bon. C'est un film de sourds, un film avec des voix off qui sont des voix posées sur les personnages. Enfin, c'est un film complètement fou. J'adore ce film.
Jean-Marc.
Oui, moi je trouve le film génial aussi. Buñuel sortait de films extrêmement de construction très chorale, avec énormément de personnages qui sont le fantôme de la liberté, le champ discret de la bourgeoisie. Là, tout à coup, c'est un film qui est beaucoup plus linéaire, fondé sur ou avec vraiment deux personnages centraux, même si un des personnages est joué par trois actrices, deux corps et une voix, comme l'a dit Camille. Et il retrouve pour moi quelque chose de moins ludique et de davantage douloureux. On est plus proche de Tristana que de ces films presque boulevardiers des années 70. Et le film est très intense et très profond. C'est un film hanté par la fin. Par la fin des sociétés capitalistes bourgeoises, qui sont rongées par le terrorisme et le sentiment que vraiment tout ça va sauter. Par la fin qui est la fin d'une vie humaine, puisque c'est vraiment un film sur le dernier mouvement de la vie où le sujet sait qu'il ne sera plus jamais un objet du désir et sans cesse voit son désir ravalé constamment. Et c'est aussi un film qui est traversé par la fin d'une œuvre. On sent que il y a quelque chose d'un peu testamentaire dans le film. Donc il y a quelque chose d'à la fois farcesque, ricanant, mais vraiment travaillé par une très grande douleur qui est extrêmement puissante. J'adore ensuite les choses propres à Buñuel, comme cette manière de ces irruptions d'animaux. Tout à coup, une souris prise dans un piège à souris, une mouche qui tombe dans un verre. Tout à coup, il y a l'irruption de la sauvagerie, de la brutalité animale, qui est à la fois savoureuse, hilarante, et qui donne quelque chose de totalement fou furieux au film.
Michel.
Ouais, c'est un très grand film. Et alors là, effectivement, pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que Buñuel, que j'ai toujours adoré, grandit à chaque fois que je vois ses films. C'est-à-dire que c'est un des très très grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et ce film, c'est une adaptation de La Femme et le Pantin de Pierre-Louis, mais tellement libre. Déjà, il y avait eu Marlène Dietrich dans le rôle, et puis ensuite Brigitte Bardot. Il y a eu deux adaptations. Et là, on a effectivement cette idée géniale qu'il a eue à la dernière minute de remplacer Maria Schneider par deux actrices pour le même rôle. Le scénario. Par exemple, c'est sur le tournage qu'il inventait des choses, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne suivait pas du tout les scénarios, même s'ils étaient admirablement écrits avec Jean-Claude Carrière. Par exemple, la création de ce groupe révolutionnaire de l'Enfant Jésus. Et puis, il y a ce personnage de vieux barbon qui aime, il la hait pour ce qu'elle lui donne et elle l'aime pour ce qu'elle lui refuse. Cette femme qui refuse absolument et cet homme complètement frustré qui ignore le monde extérieur. Alors là, c'est pas Truffaut, évidemment, mais d'une certaine façon, ce personnage de vieux barbon ne pense qu'à son obsession sexuelle et il n'écoute pas la radio le matin pour avoir des nouvelles du monde, il ignore les titres des journaux. Et ce qui est passionnant et difficile à faire admettre dans notre époque de simplification, c'est que Buñuel, qui enfermait sa femme à double tour au Mexique, qui refusait qu'elle vienne l'accompagner en Europe, qui était stalinien jusqu'à la dernière dernier souffle, il défendait Staline, qui a été épouvanté par mai 68, est en même temps le cinéaste le plus subversif, le plus libre, le plus extraordinairement anarchiste, et d'ailleurs lié à son ralliement au surréalisme dans sa jeunesse. Ça, c'est une contradiction folle que notre époque n'est pas prête de comprendre.
Cet obscur objet du désir, c'est Buñuel, c'est 77, et c'est sur ce site que je vous conseille vraiment d'aller voir de très près, c'est la Cinéthèque. Et on termine sur les chapeaux de roue, vraiment sur les chapeaux de roue, manque de temps, et c'est le cas de le dire, avec Christine de John Carpenter, récemment d'ailleurs diffusée sur France 5, et qui ressort en DVD et Blu-ray chez Carlotta, film de 1983, adapté d'un roman de Stephen King, qui raconte la métamorphose d'un ado complexé, Arnie, qui est un garçon qui a vraiment des problèmes, et qui devient du jour au lendemain crâneur, sûr de lui, et qui est joué par Cass Gordon, qui n'a d'ailleurs pas eu ensuite une grande carrière, métamorphose qu'il doit à une voiture écarlate, plus exactement, je crois que Xavier Le Herpeur a la même, une Plymouth Fury de 1958 qui est au bord de l'agonie, qu'il achète, qu'il rajeunit et qui se prénomme Christine. Le problème, c'est que si Christine est devenue très sexy, elle est aussi autoritaire et surtout incroyablement jalouse. Elle peut tuer tous ceux qui lui font du mal. Je n'en dirai pas davantage. Un film qui, à en croire cette semaine, Hélène Frappa dans les Arocs, convoque à la fois Hitchcock et Matt. Rien que ça, malheureusement, vous êtes obligé de me dire rapidement ce que vous pensez de ce film de Carpenter. Xavier ?
Bah, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King, c'est un des meilleurs films de Carpenter, parce qu'ils parlent tous les deux de la même chose. C'est pas tant l'histoire de cette voiture qui écrase les gens, ça fait pas très très peur, Christine, surtout aujourd'hui, c'est une histoire de cul, c'est
une histoire... Il y a une scène ou deux où on a peur, hein.
Ouais, enfin, il faut le chercher, il faut vouloir. Mais moi, ce que j'adore, c'est que c'est une histoire d'adolescent pétri d'hormones qui tombe sur une femme fatale qui va le révéler à lui-même. Et ça n'est qu'une histoire de cul qui fracasse la pudibonderie et l'hypocrisie de la société américaine. Et ce sont des thèmes que partagent Carpenter et Stephen King. Et c'est normal qu'ils se rencontrent à ce moment-là. Le plan d'ouverture est génial. C'est une voiture qui a la mauvaise couleur dans une chaîne de voitures blanches. Elle est rouge. Donc déjà, effectivement, elle est mise de côté, dans le domaine, le modèle américain, et tout le film est là-dessus, tout le film est vraiment une espèce d'attaque de ce qu'est l'Amérique des années 80 et de ce qu'elle est encore aujourd'hui. Le film n'a hélas rien perdu de ses chevaux de bataille.
Sur une BO ultra rock d'ailleurs. Michel ?
Oui, c'est un film extrêmement réussi. Il faut dire que les meilleures adaptations de Stephen King, c'est de la fin des années 70 et début des années 80, avec Christine, avec Shining, avec Carrie, etc. Ensuite, il y en a eu 40 d'une grande médiocrité. Ce film est passionnant. Moi, je trouvais remarquable d'avoir la mise en scène. Il sort d'une adaptation de The Thing, qui a été un échec. Il fait donc un film qu'il veut plus populaire, mais qui est une adaptation très passionnante. C'est-à-dire, c'est le thème central de King, c'est-à-dire de réunir un être non humain, comme dans l'hôtel de Shining, le chien de Cujo, et ici la voiture, qui s'accouple avec un personnage qui est rejeté par son milieu. Ici, Arnie, le personnage principal, qui est en fait le frère jumeau de Carrie, et qui est un personnage qui va devenir lui aussi maléfique, alors qu'il est rejeté par son milieu. Et je trouve le film a une pureté hoxienne, c'est-à-dire il y a une façon chez Carpenter de filmer avec une sécheresse, avec une rigueur absolue. Et bon, je ne vais pas m'étendre, mais c'est un film que je recommande.
Non, mais tu ne pourras pas t'étendre. Camille, quelques mots ?
C'est un très grand film d'un très grand cinéaste qui n'est pas encore assez reconnu parce qu'il œuvre dans des genres mineurs, mais John Carpenter, voilà. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai revu le film, j'ai pensé à Lynch, que c'est marrant parce que
c'est vrai.
Carpenter vient juste de 2 ans, 3 ans avant Blue Velvet. Et c'est très curieux de voir comment Lynch a peut-être été sauvé par Carpenter. Simplement, si la maxime de Godard, contrairement à Truffaut qui disait que le cinéma c'était faire de jolies choses à des jolies femmes, Godard c'est de savoir bien filmer les voitures, alors Carpenter est effectivement un des très grands cinéastes de l'histoire du cinéma, parce que là, filmer une voiture pendant 1 heure et demie en l'illonnant presque vie et cette espèce de rutilance de l'image, et en effet, comme dit Michel Simon, le côté oxyen du film, c'est génial, la mise en scène, tout raccorde, c'est il y a une sorte de fluidité linéaire dans chaque séquence, on ne loupe rien, il coupe un peu après les fins de séquence où normalement on aurait déjà coupé, on reste dans la voiture avec le copain qui s'en va, et hop, on raccorde avec la voiture sur c'est magnifique, c'est une espèce de chose que je sais pas, je pourrais en parler une heure, hein, de la mise en scène de Christine et de Carpenter.
Jean-Marc ?
Oui, c'est vraiment un grand film de mise en scène, parce qu'effectivement, dans beaucoup de films de Carpenter, le mal échappe au visible. C'est-à-dire que soit il se transforme tout le temps, comme dans The Thing, soit il est associé à quelqu'un, quelque chose qu'on ne voit pas, comme dans Fog ou dans Halloween. Alors que là, le mal, il est ce qu'il y a de plus matériel qui soit, qui est une voiture. Et comment faire peur ? Comment inquiéter par un objet aussi tramé à notre quotidien qu'une voiture rutilante ? Ça demande des ressources immenses de mise en scène, et le film est extrêmement extrêmement jouissif là-dessus, la manière dont il va réussir à animer cette chose matérielle pour lui donner une persona. Donc le film est vraiment très fascinant. C'est aussi un grand film contre la famille et contre l'école, contre les structures oppressives de la société américaine et du quotidien. Et c'est, Christine va retourner la violence larvée de ces structures contre elle-même. Elle est une sorte d'objet transitionnel absolu. C'est vraiment un film politiquement très puissant.
C'est Christine de John Carpenter, et dans le coffret Blu-ray, vous avez en prime un making-of de 50 minutes, pas moins de 20 scènes coupées. Et enfin, une longue et très intéressante interview de John Carpenter. Voilà, le temps est venu des conseils DVD, VOD, séries, livres, tout ce que vous voulez. Et on commence avec Camille.
C'est le site Tank, T-E-N-K, qui est un site de documentaire qui met en ligne des films d'accès libre. Il reste encore quelques jours pour voir Miso et Mazo sont dans un bateau. Les films de Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, c'est de collectif Les Insoumuses, qui reprend une émission de Bernard Pivot et de Françoise Giroux pour le dépecer, le démonter avec une espèce d'ironie ravageuse et féministe. Il faut absolument voir ça. Il reste encore 2-3 jours pour le rattraper sur le site. C'est avec France Inter, d'ailleurs. Je crois que le film a été présenté, et on peut voir plein d'autres documentaires très bien sur le site, dont Paul, l'emploi ne quittait pas, un film de Nora Philippe de 2013 qui est sur le personnel de Pôle emploi et le cauchemar que c'est de l'administration française. Voilà.
Le conseil de Michel.
Alors, en attendant la sortie à la rentrée du 25e James Bond, Mourir peut attendre, mon coup de cœur, c'est un livre de Alyosha Wald Lazowski chez Max Milo, qui s'appelle « Les 5 secrets de James Bond ». C'est un livre absolument remarquable, d'abord pas du tout jargonnant, où il s'en prend d'ailleurs à Gilles Deleuze, à Slavoj Žižek, à Roland Barthes, à Stanley Cavell, qui ont traité avec condescendance les histoires de James Bond. Et ces 5 secrets, bon, c'est James Bond et la géopolitique, l'identité cosmopolite et britannique de James Bond, le film amoureux dans le film d'espionnage, la place du corps du héros dans l'univers cinématographique de James Bond, et les références culturelle. C'est un livre absolument passionnant, et moi qui aime James Bond depuis Bon Baiser de Russie et Dr No, je suis ravi qu'un universitaire philosophe très compétent parle avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'humour des aventures de James Bond.
Jean-Marc.
Également sur Netflix, outre les 12 films de François Truffaut, on peut aussi voir 9 films de Jacques Demy, à la fois les plus connus comme Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort et d'autres très peu connus. Celui qui est peut-être mon préféré, en tout cas le moins reconnu des chefs-d'œuvre de Jacques Demy, c'est Une chambre en ville,
oui.
Qui est l'antépénultième. C'est un film de 1982 avec Daniel Darieux, Richard Berry, Dominique Sanda et Michel Piccoli. C'est un film extrêmement sobre, peut-être le plus opératique des films de Jacques Demy, et qui c'est un des plus grands films français sur l'amour fou. Et sur la force à la fois destructrice et émancipatrice de la passion amoureuse. C'est vraiment un film génial.
Et enfin, Xavier.
Bah, je suis tellement d'accord avec Jean-Marc. C'est le seul film d'ailleurs que Michel Legrand a refusé, pour lequel ouais. Michel Legrand a refusé de signer la partition. C'est Michel Colombier, et c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais
c'est Parking,
j'ai pour
aussi.
Vous. Oui, Parking, c'est Michel Legrand.
Non, Parking, c'est Michel Legrand.
Ah,
non,
bon
non. Non, non, désolé, c'est Camille.
Bon,
c'est pas grave. J'ai un conseil de série sur arte.tv, le site d'Arte.
Ah.
Vous pouvez trouver les deux saisons d'Au nom du père, une série danoise signée Adam Price, sur l'histoire d'un pasteur qui voit lui échapper le statut d'évêque qu'il convoitait tant et en plus au profit d'une femme, et qui va peu à peu péter des plombs, entre guillemets. C'est un film, c'est une série magnifique sur la foi qu'il respecte complètement, mais en même temps qu'il s'interroge sur les dogmes, sur l'hypocrisie aussi de certaines mécaniques religieuses. Et c'est une série remarquable, 2 saisons sur Arte TV.
Manière pour moi de dire que le conseil est mon conseil, c'est de ne surtout pas manquer les conseils hebdomadaires de série que nous propose Xavier dans son excellente
émission
en série le samedi soir à 20h. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et réalisée depuis son donjon médiéval par le chevalier Xavier Pistuggia. Je vous dis à dimanche prochain 11h et 20h pour un Masque et la Plume consacré au théâtre en VOD et DVD. C'est une manière aussi pour nous de ne pas abandonner le spectacle vivant. Et c'est sur France Inter, évidemment.